Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
C'est vrai.
RTL Matin.
C'est pas fini encore.
Avec Yves Calvi.
C'est pas fini. Et dans un instant, les confidences de l'auteur américain Douglas Kennedy. Il publie le dernier volume de sa trilogie, La Symphonie du Hasard. Bernard Lehu l'a rencontré. De quoi faire rêver les enfants et les fans de comics. 120 sculptures de super-héros grandeur nature créées en briques de Lego sont exposées depuis hier sous le chapiteau du Parc de la Villette à Paris. Sophie Orange est allée voir tout cela de très près. De la musique avec Charlotte Latour et le Sirba Orchestra, un ensemble de musiciens classiques et orchestres philharmoniques qui revisitent des airs russes et tziganes. Et puis à la télévision ce soir, sur France 2, Laurent Delahousse présente un documentaire sur les histoires secrètes de l'élection présidentielle 2017. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour.
Jeudi paraîtra chez Bellefond le dernier tome de la Symphonie du Hasard. C'est la trilogie inaugurée par Douglas Kennedy à l'automne dernier.
Oui, l'auteur américain se lançait ainsi pour la première fois dans une œuvre de longue haleine, avec une ambition et un souffle que l'on avait salué dès le premier volume de la Symphonie du Hasard. 1360 pages au total, en trois livres donc, dans lesquels Douglas Kennedy nous entraîne dans une double saga familiale, celle des Burns, et historique, celle de l'Amérique des années 60 aux années 80. Un projet que ce francophile convaincu et lettré est allé chercher chez l'un de nos grands maîtres du 19e siècle, Monsieur Balzac.
Franchement, c'était la comédie humaine. J'ai pensé de ça tout le temps. Et le fait que Balzac était obsédé par la famille et l'argent, toujours. Et ça m'a beaucoup marqué parce que ma famille a explosé à cause d'un problème avec l'argent et le fait que, en fait, mon père a perdu sa carrière. J'ai essayé d'écrire, franchement, un vrai roman du 19e siècle, une grande saga avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dramatiques, mais où une famille est un vrai miroir de la société.
Alors, si je me souviens bien, Bernard, la saga de Douglas Kennedy, La Symphonie du Hasard, est écrite à la première personne.
Oui, et l'auteur de La Femme du Cinquième se glisse dans la peau d'une narratrice, Alice, la fille des Burns. Choix judicieux qui donne une voix, une âme à la trilogie. On s'attache à cette Alice, on l'aime. Et on avait suivi son émancipation intellectuelle, sentimentale et sexuelle dans le premier tome. On l'avait retrouvée en Irlande, passionnée de théâtre dans le volume 2, qui se terminait tragiquement en plein conflit entre catholiques et protestants. Ce sens du tragique qui rythme la Symphonie du Hasard, eh bien c'est le prix à payer pour ce formidable cadeau qui nous est donné, la vie. Douglas Kennedy en est persuadé, et ce n'est pas la mort récente de son ami, le grand écrivain de polar anglais Philip Kerr, l'auteur de la trilogie berlinoise, qui le fera à changer d'avis, confidence.
On n'en a aucune idée de destin. Début juin 17, Philippe et moi, on était côte à côte au Salon de Rivière à Nice. On a signé des livres, on a parlé en fait de beaucoup de choses, la vie, nos enfants, nos carrières, nos relations intimes, compliquées. Deux mois après ça, en fait, Philippe a découvert qu'il a eu un cancer et il est mort maintenant. Il avait 8 mois plus jeune que moi. Ça, c'est la musique du hasard. Ça, c'est le casino génétique. On vit avec ça tout le temps. Montaigne a dit qu'il faut réfléchir à la mort tous les jours pour vivre. Et je suis d'accord avec ça.
Qu'arrive-t-il à Alice, l'héroïne de la Symphonie du Hasard, dans ce troisième volume?
Alors, revenue aux États-Unis, Alice Burns termine ses études, devient prof, puis éditrice, aura plusieurs aventures amoureuses et des relations toujours aussi agitées avec sa famille, déchirée par le divorce de ses parents et la rivalité entre ses frères, qui elle aussi tournera au drame. Douglas Kennedy, une nouvelle fois, se livre à une brillante autopsie de la cellule familiale et des couples et se révèle, tel qu'on le connaît, un observateur avisé de la nature humaine.
La vérité, en fait, est-ce que c'est possible de vraiment comprendre soi-même? Je me doute ça complètement. Et est-ce que c'est possible de trouver un vrai équilibre dans la vie? Je me doute ça aussi. Peut-être la plus grande lutte dans la vie, c'est soi-même. Par exemple, mon deuxième mariage. Pourquoi j'ai fait ça si rapidement? Je pense que ça, c'est un aspect de la condition humaine. Chaque événement dans la vie est une expérience et on apprend des choses. Ma première ex-femme m'a dit deux fois, ton problème, Douglas, tu vois la vie avec trop de clarté.
fameux rire de Douglas Kennedy. Alors la saga familiale de la Symphonie du hasard, Kennedy l'inscrit, comme dans les deux tomes précédents, dans son époque. Ici, l'Amérique du début des années 80, Ronald Reagan est à la Maison Blanche, les Golden Boys triomphent à Wall Street et le sida fait son apparition. Un retour captivant vers un passé récent et qui pourtant nous semble déjà si lointain. Et puis, surprise, surprise, Douglas Kennedy conclut sa trilogie par un « à suivre ». Alors, on n'en a donc pas fini avec la symphonie du hasard.
Mon Dieu, quand je réfléchis de 35 dernières années de la vie, tout a changé. À l'époque, en fait, c'était avant l'Internet. Et la révolution technologique, c'était avant la chute du mur. C'était avant la chute de l'Union soviétique. Les changements ont été immenses. Et beaucoup de choses positives et aussi beaucoup de choses négatives, y compris certainement la dernière élection présidentielle aux États-Unis. Oui, j'en suis sûr que je vais revenir à la famille Burns, mais dans un an. J'ai besoin d'une petite entracte. Il faut que j'écrive quelque chose tout le temps. Ça, c'est mon habitude. Je suis un peu obsessionnel.
Bah oui, on se réjouit de cette obsession de l'écriture. En attendant la suite que nous promet donc Douglas Kennedy, laissez-vous tenter par le livre 3 de la Symphonie du hasard, sa comédie humaine, version 20e siècle et Made in America. Un grand bonheur de lecture à savourer dès jeudi prochain, 3 mai, chez Belfond et chez tout, dans toutes les librairies de France.
Merci beaucoup Bernard Louis. Nous allons donc maintenant nous intéresser aux résultats d'audience de notre soirée télévisée d'hier soir avec Médiamétrie et Isabelle Morini-Bosque.
Alors, audience très éclatée, mais vacances oblige. Donc, Camping Paradis est en tête, mais 4 400 000 téléspectateurs à peine et 19% du public sur la une. Speak Rhine termine avec son score habituel, 3 800 000 et 16%, peut-être même légèrement en hausse. Et alors, c'est Ratatouille sur M6 qui rassemble le plus de jeunes, 3 400 000 téléspectateurs et 15% du public sur la 6. C'est un joli score. Également, joli score pour W9 côté TNT, qui est largement en tête, 1 200 000 téléspectateurs devant Twilight, chapitre 5. Il y a une logique de marché.
On se retrouve dans quelques instants pour notre soirée télévisée. Et puis, d'ici là, on aura joué avec des Legos avec notre camarade Sophie Orange. Je vais vous emmener à la Villette. Il y a beaucoup de choses à faire.
J'ai plein de Lego.
Voilà.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Il est 9h09, merci d'écouter RTL et excellente journée. Sophie Orange, bonjour.
Bonjour.
Vous nous emmenez donc ce matin voir des super-héros en Lego. C'est une exposition sous le chapiteau de la Villette à Paris jusqu'à la fin de l'été. Avec vous, on était plutôt habitués à parler de tableaux, de sculptures. Et donc là, ce sont bien des Lego.
Et ce sont bien des œuvres d'art. Déjà, petite question, vous avez tous autour de la table déjà joué au Lego, enfant, j'imagine.
Oui.
Bon, vous allez continuer, j'en ai pris quelques-uns. Vous allez travailler, fabriquer, construire pendant que vous m'écoutez. Yves, servez-vous, puis vous faites passer. Tout le monde a donc des Lego à la maison. Eh bien, Nathan Sawaya en a fait son métier. Cet ancien avocat américain est devenu sculpteur de briques Lego. Il en a 7 millions dans son atelier et il passe ses journées à créer, imaginer et inventer. Il présente donc à Paris, après Madrid, Londres et Rome, 120 super-héros et super-vilains des comics américains grandeur nature. Vous allez voir dans l'ordre Batman, Wonder Woman, mais aussi le Joker, Aquaman, Green Lantern. Pour certains personnages, Nathan Sawaya a utilisé plus de 30
000 briques. J'aime utiliser des briques de Lego pour créer parce que cela rend l'art très accessible. On a tous joué au Lego. En famille, les enfants, tout le monde peut apprécier cette forme d'art puisqu'on a joué avec.
Son niveau d'inspiration, son univers d'inspiration sont donc les super-héros de DC Comics. Ils ont marqué l'enfance et la jeunesse de Nathan Sawaya, comme tous les Américains d'ailleurs, et comme nous tous aussi. D'ailleurs, DC Comics était l'une des principales maisons d'édition américaines dans les années 30. Et en 1938 apparaît Superman, le premier super-héros. Viennent ensuite toutes les stars que l'on connaît aujourd'hui et que l'on trouve dans cette exposition importée en France par Corinne Ménégo.
Les super-héros ont toujours été les personnages préférés des Américains, avec des personnages qui permettaient aussi de redonner de l'optimisme à la population, prenaient des valeurs de bienveillance, de tout ce qui fait les valeurs du super-héros, qui est attentif à l'autre, qui est courageux, défendre le bien quoi qu'il arrive. Batman, Superman, Wonder Woman, l'ensemble de la Justice League ont tous été effectivement des bandes dessinées avant de devenir du cinéma, des films ou des séries.
Alors, ces sculptures sont en Lego à 100% ou il y a une structure à l'intérieur, justement?
Bonne question, je me suis posé la même. Non, ce sont que des briques de Lego. C'est ça qui est impressionnant et spectaculaire. Ça nécessite quand même avant des dessins, des études, des calculs pour que ces œuvres se transportent sans se casser. Et une fois imbriquées, les briques sont collées. L'œuvre la plus spectaculaire, la voici.
Accrochez-vous. Montez dans la voiture.
Laquelle ?
We're looking at my rendition of the Batmobile.
Là, on regarde une version de ma Batmobile, une Batmobile qu'on a vue dans les vieux comics, mais à la fois, on n'en a jamais vu des comme ça. Pour la construire, j'ai utilisé plus de 500 000 briques de Lego.
Lego bricks to create this.
Quand je vous dis que ce sont des œuvres d'art et cette Batmobile vintage toute noire de 5 mètres de long est vraiment très spectaculaire avec des détails que les spécialistes apprécieront. À l'arrière, la flamme du moteur, les ailes dans les roues, les petits phares rouges. Nathan Sawaya a travaillé avec un dessinateur de comics très connu aux États-Unis pour construire cette Batmobile, Jim Lee.
Et j'imagine qu'il a réalisé des sculptures de Superman.
Oh, il y a une salle entière consacrée à Superman avec une impressionnante sculpture bleue et rouge et la cape qui semble vraiment s'envoler alors que pourtant elle est en briques. Il a fallu 30 000 briques pour la réaliser. Une salle, bien sûr, aussi pour Wonder Woman, une salle pour les super-vilains, la Ligue des Justiciers, une expo pour les grands et les petits.
Je fais des petites constructions, des vaisseaux, des personnages, et pas des trucs de gens comme eux.
C'était vraiment extraordinaire parce qu'il y a vraiment des trucs réalistes comme la Batmobile, Joker, les têtes et tout. Très, très réaliste. Il faut que je rachète quand même des briques parce que j'en ai pas trop assez pour faire ça. C'est un artiste qui, dans son cœur, est un enfant.
The goal as an artist is to inspire.
L'objectif d'un artiste, c'est d'inspirer. Je veux encourager la créativité de chacun. L'art n'est pas une option. L'art est aussi important que respirer, manger. On a besoin de l'art. J'espère qu'après avoir vu l'exposition, les visiteurs vont être inspirés, plus créatifs, plus joyeux et que le monde sera meilleur.
Alors j'ai suivi les conseils de Nathan Sawaya, hein, comme vous, j'ai créé à la fin de l'exposition. Alors là, bon, avec vous, c'était plutôt des Duplo Lego parce que voilà, j'avais ça à la maison. Alors que Nathan Sawaya, c'est des petits Lego évidemment. Donc j'ai créé à la fin de cette exposition avec quatre enfants qui étaient venus à l'exposition. J'ai écrit Laissez-vous tenter RTL en Lego. Ça a pris un quart d'heure. Vous retrouverez la photo sur Twitter. Et vous, vos créations,
très doué.
Yves, votre création Lego?
Moi, j'ai fait un petit nain.
Je suis compatible avec lui, j'ai la fenêtre.
Je vous en prie. Ah bah voilà, ça ne m'étonne pas.
Et cette exposition va parcourir les capitales et ces grandes formes de Lego sont collées pour bien se transporter et bien résister. C'est vraiment très impressionnant, l'expo Lego des super-héros à voir à la Villette dans l'espace Chapiteau jusqu'au 19 août.
Et nous, il faut les rendre?
Oui, il faut les rendre parce qu'il y en a une petite qui les attend.
Et l'on fait quoi après?
Après, il espère vendre cette exposition dans d'autres capitales. Mais il travaille sur d'autres projets avec des Lego. Il en a 7 millions chez lui, donc il y a de quoi faire. Mais pour le moment, c'est un secret.
Une maison en Lego, peut-être.
Oui, c'est justement ce que j'allais vous dire. Il y a une adorable petite fille derrière la
qui nous a prêté
studio.
Ses Lego.
Mais oui, alors il faut absolument lui rendre dans les meilleurs.
Comment s'appelle-t-elle? C'est bien dommage.
Qui attend ses Lego.
Comment s'appelle-t-elle, cette petite fille?
Héloïse.
Bienvenue, Héloïse. Alors, voilà pour les Lego. On va maintenant s'intéresser à notre soirée télévisée, Isabelle Morini-Bosque. Alors, on signale d'abord sur la 2 la spéciale présidentielle 2017, Histoire secrète.
Oui, alors, Histoire secrète, c'est la formule consacrée pour appâter. Ce programme est plus intéressant que Réellement secret, mais on salue l'équipe de Laurent Delahousse qui propose là une excellente synthèse, commençant en fait 7 mois avant l'élection. C'est un bon compte à rebours, un bon compte qui fait les bons ennemis. On a par exemple Benoît Hamon racontant sa stupéfaction devant un François Hollande qui le lâche ostensiblement en ne prenant pas le petit mot avec son nom avant d'entrer dans l'isoloir. Ouais. Côté confidence, qui ne sert à rien mais qu'on aime bien savoir, on note que Nicolas Sarkozy ne répond jamais au téléphone quand il est au Parc des Princes. Je vous propose un bout à bout de 3 temps forts, la candidature d'Emmanuel Macron vue par François Bayrou, l'autocritique de Marine Le Pen et l'ironie fascinée de Cambadélis et Mélenchon en regardant l'élu Macron en marche vers la pyramide du Louvre.
J'étais pas emballé par la décision de Macron parce qu'il était clair aux yeux de tout le monde et au mien encore davantage que c'était sur mon terrain qu'il s'installait. C'est jamais très agréable.
À l'évidence, je n'ai pas assez préparé le débat, bien entendu. Emmanuel Macron a disparu pendant 3 jours. Manifestement, il a passé ses 3 jours à préparer le débat. Nous n'avions pas la connaissance de ce que c'était qu'un débat présidentiel. Emmanuel Macron avait autour de lui des gens de droite, de gauche qui avaient vécu des présidentielles, qui savaient ce que c'était. Moi, je n'avais personne qui avait cette connaissance-là.
Ce temps incroyablement long où il marche, il est à la fois le général de Gaulle et François Mitterrand au Panthéon. Donc c'est le retour du pouvoir en majesté.
Le culot extraordinaire qu'il a, complètement mégalo. La pyramide, le Louvre des rois, c'est fort quoi, le gars il ose. Hein.
Voilà. Donc, c'est une excellente synthèse sur la 2 à 21h.
Alors, face à une rediff de Marlowe sur la 3
Très
et
bien.
Face au péplum Exodus Paris-Glescott sur M6, je note un reportage d'Antoine Decaune sur la région Auvergne-Rhône-Alpes sur Canal+, et son nouveau rendez-vous, c'est souvent très drôle.
Oui, il est parti se faire voir dans la région Rhône-Alpes, façon Antoine Decaune, bien sûr, donc il se met souvent en scène, puisque l'émission s'appelle La Gaule d'Antoine. Il part à la découverte des Français, tous les Français, faux Zazou, vrais Zinzin, gars des villes et des champs. Ça commence par des images de notre animateur skiant tout chousse. Alors ça correspond au temps, je veux bien le comprendre, mais c'est quand même bizarre à l'heure où les Français passent déjà vacances, plus soleil.
Non, mais justement, on est là pour leur rappeler que les saisons sont complètement bouleversées, qu'il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus de printemps, il n'y a plus d'été.
Voilà.
C'était... Le monde est sans dessus-dessous.
Commence ensuite la galerie de portraits. On redécouvre d'abord les Frères Lumière dans l'Institut des Frères Lumière que j'adore et que dirige notre monsieur cinéma Thierry Frémaux.
L'histoire de l'Institut Lumière, c'est l'histoire de l'usine Lumière construite à la fin du 19e siècle dans laquelle a été inventé le cinématographe et la photographie en couleur et plein de choses. Et si c'était, comme disait Jean-Luc Godard, appelé à bas-jour, ça aurait eu moins de style que le fait qu'ils inventent le cinéma en s'appelant Lumière.
Un soir de décembre 1895...
C'est bête, mais ça me fait rire. J'ai ensuite été sidéré par le talent de Dan Holman, un as des reconstitutions de lieux en miniature. Il est aussi le spécialiste des aliens des films d'Hollywood à qui il faut injecter une sorte de botox quand le texte décompose au bout de 10 ans. On découvre ensuite pêle-mêle un fabricant de cloches, l'équipe féminine de hockey de Chamonix, ravissante, hein, le plus grand monastère bouddhiste d'Auvergne, une architecte du quartier de la Confluence à Lyon, l'énigme des deux crashs d'Air India sur le Mont Blanc, c'est un thriller absolument passionnant, un créateur de chaos, ça j'ai pas été convaincu, ou encore tiens, le chamoniard André Manoukian, passionné de clarines.
Chaque vache avait sa clarine pour les entendre, pour les reconnaître. Elles avaient chacune leur note de musique.
Voilà, moi, je ne m'en lasse pas. L'émission en rend aussi hommage à une émission locale que j'adore et qui dure depuis 25 ans, La Place du Village, animée par les frères de Paris, qui interviewent les sages du cru.
Maintenant, on fabrique des feignants.
Bien sûr.
Oui, tout simplement.
Bien sûr.
Et les gens,
bien sûr.
C'est comme un arbre. C'est petit qu'on le dresse, c'est pas une fois qu'il est grand. Une fois qu'il est grand, c'est fini.
Eh oui.
Voilà. J'ai aussi noté Christophe Isque, alias Dantes Dylan, ce natif de Maurienne idolâtré en Chine où il est animateur, se partage entre l'empire du milieu et sa région.
J'aime la Maurienne quand je m'y vois.
Version chinoise.
Voilà, et on allait oublier Stéphane Coudou, ex-mécanicien autodidacte de 30 ans, devenu un as des images en ralenti extrême. Je vous recommande l'œuf qui se crue, qui se casse sur le sol, c'est absolument magnifique. Là, il veut filmer en ultra ralenti un tir de paintball sur la fesse d'Antoine. Je vous rassure, il n'y a pas de trou de balle.
Enfin, c'est pas du plomb, non, c'est une balle de paintball, oui, qu'on m'avait décrite comme étant un indolore, ce qui est très très loin d'être le cas. Comme il fallait une partie charnue de l'individu pour qu'on puisse bénéficier de l'effet de ralenti, puisqu'il s'agit là d'un garçon à Saint-Étienne qui s'est fait une spécialité de tourner des images à l'ultra ralenti, extrêmement spectaculaire. Et donc j'ai servi de cobaye et il fallait, oui, une partie molle de mon individu. Et la seule partie molle, c'est ma fesse gauche.
Oui, enfin molle, molle, si je puis dire. On sent qu'il y a des années de vélo derrière quand même.
Oui, une certaine pratique vélocipédique, oui. On va à la rencontre de gens un peu hors clou qui, tous mis ensemble, bah, donnent quand même une bonne impression de ce qui se passe dans la région qu'on traverse. Plus j'avance dans la fabrication de cette série, et plus je suis ravi de vivre dans ce pays. On n'en mesure pas la beauté et la richesse quand on y vit. On a tendance à l'oublier, à toujours vouloir voir ailleurs. Mais vraiment, c'est un pays incroyable.
Oui, je suis entièrement d'accord. Et Sophie aussi, donc j'ai écouté les chroniques l'été dernier et qui a parcouru aussi la France.
France magnifique, monument magnifique.
Donc on découvre la région Rhône-Alpes-Auvergne ce
Auvergne-Rhône-Alpes. Et franchement, j'aime pas tout, mais tout est intéressant.
Merci beaucoup Isabelle Morini-Boss. Dans quelques instants, nous serons avec Charlotte Latour et des surprises parce qu'on va passer en groupe Mozart et Beethoven au Tzigane.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Nous allons parler musique avec vous Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
De prestigieux musiciens habitués à Mozart et Beethoven se sont lancés dans des musiques traditionnelles tziganes. Klezmer. Merci,
exactement.
Russe. Leur album s'appelle Sirba Orchestra et vous avez eu un véritable coup de cœur, m'avez-vous dit.
Sirba Orchestra, c'est la musique sans frontières. Tout a commencé en 2003 quand un violoniste de l'Orchestre de Paris, Richard Schmuckler, décide de créer le Sirba Octet. Sirba comme la danse roumaine, octet comme 8 musiciens évidemment, 2 violons, un alto, un violoncelle, une clarinette, une contrebasse, un piano et un cymbalum, aussi appelé piano tzigane.
Katyusha et Otichornia, ce sont des airs de cabaret russe extrêmement connus.
Mais souvent, je mélange du klezmer avec du rhum. Je mélange du yiddish avec du tzigan hongrois. Voilà, c'est toujours cette histoire qu'il n'y a pas de frontières.
D'amour russe ouvre l'album Katyusha. L'idée du Serba Octet, c'est d'interpréter des musiques populaires d'Europe de l'Est. Sur ce cinquième album, l'ensemble prend une autre dimension et passe en mode symphonique. Il s'est en effet associé à l'Orchestre Philharmonique de Liège sous la direction de Christian Arming. Cela donne de l'ampleur à ces mélodies. Elles deviennent pour certaines explosives et s'entendent même dans des versions inédites comme ce temps du Muguet version jazz.
C'est assez charmant, on en écouterait bien un peu plus. Alors c'est un peu une récréation pour ces musiciens dont le quotidien en fait est la musique symphonique. Hein.
Alors on pourrait croire qu'ils s'amusent à sortir comme ça de leur zone de confort, mais Richard Schmoukler, même s'il prend beaucoup de plaisir dans ce répertoire, tient à traiter toutes les musiques avec sérieux.
Il ne faut jamais tutoyer la musique, n'importe quelle musique. Que ce soit un raga indien, que ce soit de la musique folklorique de n'importe où, que ce soit de la musique africaine, la musique, dans tout ce qu'elle comporte, on peut jamais la prendre à la légère.
Le travail sur ce Serba Orchestra est d'autant plus sérieux qu'il nécessite un gros travail d'écriture parce qu'à l'origine, toutes ces musiques de l'album se transmettent de façon orale. Les airs tzigan ou klezmer, ces musiques juives ashkénazes, ne sont pas des musiques écrites. On les joue de génération en génération, on les transmet d'un pays à l'autre, mais sans partition. Il y a donc eu des heures de transcription et d'arrangement en amont de la création de l'album. Et en plus, les artistes réunis sont des musiciens classiques. Hein. Pour eux, l'improvisation, c'est pas du tout inné. Elle leur ferait même plutôt un petit peu peur. C'est un monde où, sans partition, on bascule vers le côté obscur. Mais c'est là toute la force du Serba. Alors qu'on pourrait penser qu'il manque du swing ou du groove indispensable à ces musiques, eh bien, pas du tout, ça n'est pas le cas. Il y a une énergie qui respecte en tout point l'âme passionnée de ces mélodies traditionnelles. Certains musiciens de l'ensemble ont même développé un vrai talent d'improvisateur et n'hésitent plus, en tout cas, à se lancer dans quelques minutes originales pendant les concerts.
Et pourquoi ce choix des musiques d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale d'ailleurs ?
Eh bien parce que Richard Schmoukler a baigné dedans depuis tout petit.
Moi je suis juif ashkénaz. Mes grands-parents ont fait tout le trajet à pied de Roumanie, de Pologne et de Moldavie et sont arrivés en France. Alors contrairement à beaucoup d'autres qui sont partis aux États-Unis en passant par Ellis Island, eux ils sont restés en France et donc mes parents sont nés et je suis né. Après, mes racines, ça reste aussi, malgré tout, les pogroms, la Shoah. Donc, j'ai tout ça en moi. Mon grand-père maternel, qui était 4 ans à Auschwitz. Tout ça, ça fait partie de moi.
Ce chant du ghetto de Varsovie qui évoque la faim, la mort, figure au centre de l'album. Le violoniste a tenu à l'entourer d'autres pièces plus lumineuses pour montrer qu'en musique, eh bien, la vie continue.
Au même titre qu'il n'y a pas de frontières entre les musiques, il n'y en a pas non plus entre les êtres humains. La musique a cette chance aussi que n'a pas de parole, donc compréhensible par tout le monde. Mais c'est un langage absolument incroyable parce qu'il fait passer des émotions qui ne passent pas par des mots, qui vont directement des doigts au cœur. C'est l'art de l'émotion. C'est pour ça aussi que j'appelle ce qu'on fait du classic world. C'est une musique qui appartient à tout le monde et qui est pour tout le monde.
Nous sommes chez les bergers moldaves.
Ah bah oui, les bergers moldaves.
On a reconnu. Le langage universel du Serba Octet à retrouver en concert vendredi à la Philharmonie de Paris. Ne cherchez pas, concert déjà complet. Le 16 juin, en revanche, à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, le 20 juin à Tours. Ils partent ensuite en Finlande et puis en Chine. Qui sait s'ils ne vont pas nous rapporter dans leur valise des idées pour un album aux accents sino-finnois, pourquoi pas. Serba Orchestra sort vendredi chez Deutsche Grammophon.
Je suis ravi d'avoir découvert grâce à vous Cirebon Orchestra. C'était ravissant. Ça nous a fait une très très jolie fin d'émission. On se retrouve dans un instant pour se dire au revoir et accueillir Julien Courbet. Merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter. Merci à vous de nous être fidèles. Passez une excellente journée, un très bon 1er mai. Vous retrouvez Julien Courbet.